Nous allons lire ensemble dans Luc, chapitre 4, versets 14 à 22. Luc 4, 14 à 22, il est ceci. Jésus se rendit à Jérusalem. On va commencer au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Et tous lui rendaient gloire. Verset 16. Jésus se rendit à Jérusalem, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, et trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Verset 20. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Le titre de mon message, c'est Jésus chez les siens. Jésus chez les siens. On voit ça au verset 16. Il dit, Jésus se rendit à Jérusalem. Non, plutôt, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Jésus se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé. Donc, Jésus est chez les siens. Mais lorsqu'on voit au verset 14, on voit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, mais Jésus était en Galilée. Il n'est pas encore venu chez les siens. Donc, il prêchait, il faisait des miracles. Et imaginons que quelqu'un est d'un pays là, il a voyagé, il est célèbre. Peut-être pas le vaccin, pas plusieurs choses. Il fait beaucoup de choses ailleurs. Et il ne fait pas profiter aux siens. Vous savez, et Dieu a pensé aux siens, il dit quoi? Il dit, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Jésus vint chez les siens. Waouh! Jésus a pensé aux siens. Il est venu chez les siens. Parce qu'il pouvait être ailleurs, faire des choses, mais il vient chez les siens. Pourquoi faire? On va voir quatre points qui est dans ce test-là. D'abord, chez les siens. Jésus se rendit chez les siens. C'est le premier point. Jésus est chez les siens. Et lorsqu'on parcourt la Bible, c'est quoi les siens? Il y a juste trois catégories. D'abord, c'est sa famille, la famille de Jésus-Christ. Il y avait ses frères, demi-frères, c'est les siens. Il y avait le peuple juif aussi, qui était les siens aussi. Mais les siens aussi, ce qui est la bonne nouvelle, c'est tous les êtres humains. Tous les vivants, c'est les siens, dit Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a vu la misère du monde, il a fait incarner Jésus-Christ. Jean 1, 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître aux hommes. Wow. Donc, les siens aussi, c'est nous. C'est pas les anges. C'est pas les anges. Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Donc, Jésus avait la communion avec le Père, ils étaient au ciel. Donc, il parlait avec les anges. Le diable a été déchu, il parlait. Lorsqu'on voit dans Job 1, on voit que le diable se promenait au ciel. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Là, on n'est pas encore dans le domaine des siens. Jésus, le diable est dans l'aspect spirituel. Mais là, Jésus était là-bas. Il est descendu vers nous, sur la terre. Merveilleux, chez les siens. Vous savez, Jésus s'est incarné. Ce n'est pas la réincarnation. La réincarnation, les gens croient que, comme moi, je suis pasteur Jean-Paul, si je meurs, ces gens qui croient à ça n'existent pas. Hein. Je vais peut-être revenir en carna ou bien en taureau. Ça, c'est ce que les gens... Ça, on appelle ça la réincarnation. C'est pas pareil. L'incarnation, c'est Dieu qui était invisible, qui s'est fait chair. Ça, c'est ça qu'on appelle l'incarnation du Fils. Là, Jésus est incarné pour habiter au milieu de nous. Jésus n'est pas resté avec les anges. Il pouvait rester avec les anges et laisser la terre perdue, débrouillez-vous. Non. Jésus, chez les siens, chez les êtres humains. Et donc, ça veut dire que nous aussi, on est concernés par ça. Mais lorsqu'on voit dans la Bible, on voit que chez les siens, lorsque Jésus est venu chez les siens, il y a plusieurs réactions chez les siens. On n'en trouve que deux dans la Bible. Lorsque Jésus est venu chez les siens, on va voir le message qu'il va donner, l'attente qu'il va avoir, les résultats. Mais d'abord, chez les siens, on voit deux réactions. Soit Jésus a accepté, il y a une partie de sa famille qui vont l'accepter, une partie des Juifs, une partie des êtres humains. Soit Jésus a accepté, c'est-à-dire son message a accepté par la foi. Soit c'est le contraire, soit Jésus est rejeté. Nous pouvons aussi l'accepter ou bien le rejeter. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus est venu chez les siens. Imagine que je fais partie de votre famille. Je dis la famille Le Grand, ou bien la famille, peu importe, vous imaginez. Je fais partie de la famille. Je vois, je ne suis pas là. J'arrive, je toque. Je dis, Madame Le Grand, bien ma famille Le Grand. C'est qui arrive? Oui, c'est Jean-Paul Le Grand. Waouh! Donc, alors on a plusieurs cousins, plusieurs, et peut-être Claude c'est mon cousin, telle personne. Je toque. Il dit c'est qui? C'est Jean-Paul Le Grand. Ah tiens, nous on ne peut pas te recevoir hein, parce que tu ne nous as pas prévenu là. On ne peut pas recevoir. Chut, on ferme la porte. Et maintenant, je vais chez peut-être ma cousine, mais quelqu'un de ma grande sœur. Peut-être on imaginons que Nathalie Le Grand. Je sonne. Il sait qui? Ah, c'est toi Jean-Paul. Ça fait longtemps que t'as vu là. Chut, on m'accueille. Voyez. On ne peut pas me dire que, attends, non, il n'y a pas au milieu. Soit on l'accepte Jésus-Christ, on accepte son message par la foi, soit on le rejette. Mais ce rejet peut être conscient hein, ou inconscient. On peut le rejeter consciemment ou bien inconsciemment. Et on voit que lorsque Jésus est venu chez ses frères, dans le peuple, ils l'ont rejeté. D'autres l'ont accueilli. Nous allons voir deux versets. Tournez avec moi dans Jean 1, verset 5. Jean 1, 5. C'est pour étayer ces deux attitudes possibles face à Jésus chez les siens. C'est le premier point. Jean 1, 5, il dit ceci, il dit la lumière. La lumière, ça parle de Jésus-Christ. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Le verbe, lui, c'est éclair. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous imaginez qu'on éteigne tout ça là. On ne voit pas. On dit, je viens avec une torche ou bien avec une lampe. Pour que vous puissiez voir, pour ne pas tomber. Il dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors que les ténèbres devaient dire, waouh, on a la lumière, on a la solution. Ils ne l'ont pas reçu. Mais la suite des événements va nous montrer qu'il y a d'autres qui ont accepté Jésus-Christ dans ces ténèbres-là. La question que je me pose, est-ce que je vais accepter la lumière de Dieu dans ma vie, dans mes ténèbres? Vous savez, nous avons des ténèbres dans nos vies que parfois nous ne voyons pas. Et la parole de Dieu vient, pas un frère, pas une sœur, pas peut-être la prédication cet après-midi, pour éclairer des aspects de ma vie. Ces aspects sont dans les ténèbres. Est-ce que je vais accepter la lumière de Dieu? Un exemple banal qui me vient à l'esprit. Parlons du pardon, par exemple, le pardon. Quelqu'un m'a fait du mal et c'est légitime que je le pardonne pas. C'est légitime que je sois blessé. C'est légitime que maintenant Dieu me demande de le pardonner. Ça, c'est la lumière. Je lis dans la parole. Il dit, pardonnez à vos ennemis. C'est Jésus qui dit ça. C'est la parole qui dit ça. Dieu m'éclaire. Est-ce que je veux dire, Dieu, j'ai mal. Je n'arrive pas. Mais aide-moi à pardonner. Ou bien, je veux dire, non. Il m'a fait mal. Il n'est pas venu vers moi. Vous savez, lorsqu'on voit dans la Bible, Saül qui poursuit David, qui veut le tuer, Lorsque Saül est mort, Saül n'a pas demandé pardon à David. Il a dit que tu sais quoi, j'étais poursuivi, j'étais pourri la vie, tu as couru partout dans les cavernes. Non, Saül n'a pas fait ça. Il est mort sur le champ de bataille, transpercé par l'épée. Donc, il n'est pas venu vers David pour lui demander pardon. Mais vous savez ce que David fait? Il prend son petit-fils. Il le prend, il le fait manger à sa table. Imagine qu'il voit ce petit-fils-là et il va dire que tiens, c'est ton grand-père qui voulait me tuer. Des années, ton grand-père m'a fait fuir. J'ai bavé. David pouvait dire ça. J'imagine que les généraux qui étaient autour de David, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit pourquoi? Tu ne veux pas qu'on empoisonne le petit-fils de Saül, le fils Bochette? C'est pas qu'il est dans la Bible, mais on imagine ce qui est dans leur tête. Parce que la Bible, que nous sommes faits de la même nature. Ce qui peut nous traverser, peut traverser les gens aussi. Élie a eu peur, nous aussi on peut avoir peur. On a les mêmes sentiments. Imagine ça. Mais vous savez quoi? David a été illuminé par la lumière. Et il a dit, je ne vais pas accepter les ténèbres, je vais pardonner. Même si Saül n'est pas venu vers moi, je vais pardonner. Premier pardon. Et deuxièmement, il dit, je vais l'aimer, sans condition. Il a dit que Méphibosheth, le petit-fils de Saül, qui voulait tuer David, mangeait à la table de David tous les jours de sa vie. On ne sait pas combien de temps il a vécu. Moi, je ne l'ai pas étudié. 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, David pouvait garder ça. Imagine que David garde ça. 5 ans, 10 ans. Il le voit, il voit sa tête. Il a le même portrait que son grand-père. Et ça va être horrible pour David. Donc, David a accepté que la lumière puisse lui, il a accepté ça. D'autres pouvaient refuser ça. On voit dans la Bible, Joab, ils ont tué des gens, ils ont des gens qui ont pris des revanches. Ils n'ont pas accepté ça. Mais nous aussi aujourd'hui, c'est pas loin de nous aujourd'hui. On vit ça. On vit l'injustice. On vit des choses. Nous pouvons tout brandir. J'ai raison. J'ai raison. Je suis blessé. Je ne suis pas considéré. Oui, on peut tout brandir. On a raison. Mais devant Dieu, qui peut avoir raison devant Dieu? Job dit à Dieu, tu étais où lorsque je posais les fondements de la terre? Tu étais où? Dis-moi, tu étais où? Donc, pour dire que Job, tu n'as pas à réclamer quoi que ce soit. Donc, vous voyez, pensez à ça. Dieu nous dit d'aimer sans condition. Donc ça, c'est des lumières que Dieu amène dans nos ténèbres. Et nous sommes incapables de faire ça. Et nous crions à Dieu. Deuxième passage pour étayer ces deux attitudes. On le voit, ça c'est clair, toujours dans Jean, chapitre 1, versets 11 et 12. Regardez, ça me touche, ce passage dit, « La lumière est venue chez les siens. » Waouh. La lumière est venue, c'est pas chez l'étranger. Hein. La lumière est venue chez les siens. C'est comme Paul, Dieu dit à Paul, hein, tu vas chez les juifs, si tu te rejettes, je vais t'envoyer chez les païens. Il dit, la lumière est venue chez les siens. Pourquoi? C'est un acte de grâce. Dieu pense aux siens, Dieu pense à nous, il vient vers nous. Vous pouvez rester au ciel, débrouillez-vous. Adam a péché, il n'y a pas de solution. Non, Dieu dit non. Dieu a promis à la famille descendance qui va écraser la terre du ciel. Il dit, la lumière, Jésus-Christ est venu chez les siens. Regarde ce qu'il dit. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Waouh! Un acte d'amour que Dieu fait. Dieu envoie le Fils qui est venu chez les siens. Il va avoir froid, il va être fatigué, il va avoir besoin de l'eau, il va avoir besoin des gens. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Ça n'a pas du rejet. Le Fils a été rejeté. Vous savez, dans ma vie aussi, je peux rejeter la parole. Je peux rejeter la lumière. Je peux la dire sur mes lèvres. Mais au fond de moi, dans ma vie, lorsque je suis en face pour mettre ça en pratique, je rejette. Je fais autre chose. Il est venu chez les siens, ne l'ont pas reçu. Mais regardez ce qu'il a dit au verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ce tout-là, c'est le monde entier. Jean 3, 7. Tout le monde. Parce que comme il est venu chez les siens l'ont rejeté. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je vais ouvrir la voie à tout le monde. C'est le parabole que Jésus-Christ a donné où il y a un festin. où on a mis un festin, on a dit d'inviter, d'aller chercher les gens qui ont été invités. Lui, il donne des raisons. Moi, j'ai acheté des bœufs. Moi, je me suis marié, j'ai tant. Et le serviteur vient et le maître lui dit, va dehors. Va dehors, tu vas chercher les autres. Les autres qui n'ont pas été invités. Parce que mon invitation a été rejetée. Vous imaginez ça? Dieu nous invite. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Et là, lorsque vous voyez le contexte, Jésus était soulevé, il parle au peu, à la foule, il dit, venez à moi. Venez. Ce n'est pas un homme qui nous appelle. Ce n'est pas une église qui nous appelle. C'est Dieu qui nous appelle. Venez à moi. Vous imaginez ça? Nous, on était quelque part, perdu quelque part au Togo, perdu dans la brousse quelque part, et Dieu a eu pitié de nous. Il nous a appelés. Il dit, venez à moi. Il est venu chez les siens. Jour après jour, Dieu vient vers nous. Mais l'action de Dieu, comme nous, on veut voir l'éclat. L'autre fois, je parlais qu'il n'y avait pas de regard pour attirer, il n'y avait pas quelque chose pour attirer nos regards. Donc, Dieu vient, cool, tranquille. Dans le murmure, je peux le recevoir, je peux l'accepter. Il dit, les siens ne l'ont pas reçu. Mais regarde ce qu'il dit, mais ça explique l'opposition, mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, comment on le reçoit? On le reçoit par la foi. C'est pas par la vue. Les gens l'ont rejeté par la vue. Ils vont dire dans le verset, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? C'est pas la vue, il ne le voit pas la vue. Il était au milieu de nous, quoi, jusqu'à 5 ans, on a entendu parler jusqu'à 12 ans. Jésus, on ne le voit plus. À 30 ans, il apparaît, il était où là? On ne sait pas là où il revient chez nous. Il nous proclame, Ésaïe 61, tout à l'heure on va parler de ça. Il nous proclame le salut. Vous savez qu'ils ont vu, ils ont regardé par la vue, ils l'ont rejeté. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu par la foi, c'est pas la foi, mes amis. C'est pas la foi. Tout le monde dit que si je vois, c'est me percer ces côtes-là, je veux croire. Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qu'ils ont cru. Heureux. Nous sommes heureux, nous sommes bienheureux. Nous, on n'a pas encore vu Jésus en chair. C'est notre espérance, nous allons le voir. Un jour, nous le verrons, comme il a cité. Nous le verrons un jour tel qu'il est. Mais aujourd'hui, nous croyons. Parce qu'il y a son action en nous. On le voit dans Jean 3. Le vent souffle. On ne voit pas le vent, mais on voit l'action du vent. Lorsqu'il y a le vent, on ne voit pas le vent. Mais on voit le vent qui dévaste, le vent qui fait des choses. C'est la même chose. On voit l'action de Dieu dans nos vies. L'action du Saint-Esprit. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quel privilège, quel grâce, nous pouvons recevoir. Jésus est chez les siens, nous pouvons le recevoir. Par la foi. Je ne comprends pas tout, mais je reçois par la foi. Mais dit, à tous ceux qui l'ont reçu, regarde ce qu'il dit. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Waouh. C'est lorsque nous acceptons, il est chez les siens, lorsque nous l'acceptons, Dieu fait miracle, Dieu fait quelque chose. Il dit que Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a précisé ça? Parce que nous étions ennemis de Dieu. Il y a 2 semaines, je lui dis ça. Nous étions ennemis de Dieu. Il dit, Dieu nous donne le pouvoir. Ce pouvoir ne vient pas de nous. Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est miraculeux, c'est divin. Ce n'est pas palpable. C'est comme en médecine. En médecine, il n'y a pas d'appareil pour mesurer la douleur. Il n'y a pas d'appareil. Il dit que j'ai mal au doigt, j'ai mal au dos. Le médecin dit, il te prescrit Doliprane. Mais tu dis que j'ai mal au dos, j'ai ça. On ne peut pas mesurer ça. Donc c'est pourquoi les gens profitent. Ah, je suis en arrêt, j'ai mal au pied, j'ai mal. Non, il n'y a pas d'appareil. On ne peut pas mesurer ça. C'est le patient, celui qui a mal, qui dit j'ai mal. Qu'est-ce que le médecin va dire? Tu as mal, on croit. On croit, il y a douleur. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? C'est que c'est la même chose. Devenir enfant de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va calculer. 1 plus 1 égale à 2. Ou bien en troisième, A plus B le tout au carré égale à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est logique. Mais il dit, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment ça se passe? C'est miraculeux, c'est divin. C'est quelque chose que j'accepte par la foi. Il continue, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Waouh! C'est la volonté de Dieu. Dieu veut, Dieu désire. Dieu veut une communion avec nous. C'est pourquoi il est venu chez les siens. Vous voyez ça? Jésus n'est pas venu chez les siens parce que c'est bienfaisant de venir chez les siens. Non, il est venu chez les siens pour leur donner la vie éternelle, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Parce que même étant son peuple là, ils sont éloignés de Dieu. Romains 3, il dit que tous nous sommes nés dans le péché, nous sommes éloignés de Dieu. Et il est venu chez les siens. Ça, c'est le premier point. Ça va? Vous suivez? Jésus est chez les siens. Il y a deux attitudes. Soit je l'accepte, soit je le rejette. Et tout cela, parce que Dieu a créé l'homme libre. Nous avons la volonté. Lorsque l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, en Genèse, Dieu l'a créé libre. Il a la volonté. Il a le libre arbitre. Donc je peux choisir. Et Dieu ne peut même pas aller contre ça. Waouh! Je suis libre de choisir. Et Dieu même ne peut pas aller contre ça. Et Dieu me demande, il est venu chez les siens. Je peux le recevoir. J'ai la possibilité de dire oui à la deuxième personne de la Trinité. Vous savez, lorsque nous étions jeunes, nous on était convertis jeunes, les missionnaires nous ont parlé, nous ont évangélisé, on a accepté. Mais lorsqu'on acceptait par la foi, on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Accepter Jésus dans vos vies par la foi, on ne savait pas. Je pouvais être ingénieur ou bien pilote, mais sans Jésus, ça ne servait à rien. Parce que la Bible dit que l'homme meurt une fois, après quoi vient le jugement. Acceptons-le. À la foi. Maintenant, deuxième point que nous allons voir. Jésus est chez les siens. C'est bon, vous suivez? Nous pouvons continuer. Jésus est chez les siens. Deux attitudes possibles. L'accepter ou bien le rejeter. Deuxième point, qu'est-ce que Jésus va donner? Le message que Jésus apporte aux siens. Deuxième point, le message que Jésus apporte aux siens. Nous voyons ça dans Luc 4, versets 18 et 19. Regardez ce qu'il est dit. Donc, Jésus n'est pas venu chez les siens, il les regarde, il regarde dans l'air. On dit, tu viens faire quoi ici? Je sais pas ce que je suis venu faire. Non. Jésus est venu pour un but précis. Il est venu pour un but précis. Le but, c'est de donner un message. Quel est le message? Nous allons le voir, c'est ça qu'il va dire ici. Au verset 18 et 19 de Luc 4. Regardez ce qu'il est dit. Il dit, donc Jésus vient, il vient dans la synagogue. On lui donne un rouleau. Et Paul, lorsque tu es allé, on donne un rouleau. Donc, Jésus ouvre le rouleau. Il pouvait tomber sur quoi? Malachie, pouvait tomber sur Ézéchiel. Là, c'est pas par hasard, hein? C'est Dieu. C'est conduit par Dieu. Jésus tombe sur un pari. Regarde ce qu'il a dit au verset. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Wow. Vous savez ce que Jésus a cité ici? Jésus a cité Ésaïe 61, versets 1 et 2. La partie A du verset 2. Il n'a pas tout cité. Tout à l'heure, on va tourner dans Ésaïe 61. Donc, Jésus arrive. On lui donne un rouleau. Qu'est-ce qu'il fait? Prend le rouleau. Il ouvre le rouleau. Déroule le rouleau. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit un passage d'Ésaïe 61. Une prophétie. Mais cette prophétie ne concerne pas Ésaïe. Ça ne concerne pas Malachie. Ça concerne celui qui lisait le livre. Ça concerne Jésus-Christ. Après, il va leur dire ça. Nous allons tourner dans Ésaïe 61. Ça, c'est des années avant que cette prophétie ait été prophétisée. Regarde ce qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. On dirait que c'est Ésaïe qui parle. Ce n'est pas Ésaïe qui parle. C'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ est venu annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme est perdu. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes incapables. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu. C'est ça la mauvaise nouvelle. Lorsque nous ouvrons la télé, la radio, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est rare d'avoir un journal où on dit, c'est le journal des bonnes nouvelles. On va citer les bonnes nouvelles. Nous, on peut s'amuser à faire ça. On prend l'année 2020, on va dire quoi? On va écrire les bonnes nouvelles. janvier 2020. On dit substitution et début de Covid, on ne sait pas encore. Février, Covid quelque part. Mars, on commence là. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. On met ça sur une colonne. On met deuxième colonne là. On va voir les bonnes nouvelles. Janvier 2020, Covid, mais je suis en vie. Gloire à Dieu. Février 2020, je suis encore en vie. Mars 2020, il y a confinement, mais Dieu nous a gardés. Jésus est venu pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Mais on voit des chrétiens, on a l'impression que les gens n'ont pas de bonnes nouvelles. Vous savez, les bonnes nouvelles, ça donne la joie. On voit dans le Proverbe. Le serviteur, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, c'est comme une eau fraîche qu'on donne lorsqu'il fait chaud. Jésus-Christ est venu pour nous annoncer bonne nouvelle. Il veut nous racheter. Il veut nous donner ce que nous, on ne peut pas faire. Il veut nous donner une joie ineffable, un pardon qu'on ne peut pas produire. C'est ça, la bonne nouvelle. Dans le Proverbe, il y a un proverbe, il dit, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous verra voir le bonheur? Oh, on cherche le bonheur, la bonne nouvelle. Il y a un chant comme ça, quelqu'un qui chante là. Tant, qui verra voir le bonheur? Le bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, mes amis. Soyons remplis de cette bonne nouvelle. Communiquons cette bonne nouvelle. Parce qu'on voit autour de nous, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont là parce que nous sommes péchés. Nous sommes nés dans un monde de péché. Ce qui se passe là, vous voyez dans Ézéchiel, vous voyez dans Daniel, vous voyez dans Apocalypse là. C'est juste l'histoire qui se déroule devant nous. C'est ce que Dieu a promis. Mais au milieu de ça, il y a le Messie. Jésus-Christ qui est là, il a annoncé une bonne nouvelle. Donc, il est venu chez les siens, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux siens. Il dit, voyez, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Regarde, il dit, la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que nous, on ne pense pas qu'on est pauvre, on pense qu'on est riche. Oui, riche, mais pauvre, c'est par rapport à Dieu. On est pauvre par rapport aux richesses de Dieu. L'homme est séparé de Dieu, il est pauvre. Il est pauvre. C'est bon, vous suivez? Je peux continuer? Ça va? Là, j'ai fait... C'est bon, on peut continuer? Vous allez bien? Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous lever pour vous détendre un peu. Je vous accorde ça. Donc, bonne nouvelle. Regardez, on continue. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Waouh, imaginez ça. Peut-être je pense à mon voisin. Non, pense à toi. Peut-être il y a quelque chose qui me brise le cœur, qui me brise l'âme. Jésus-Christ est venu pour ça. Il dit, il est venu pour donner une solution. Pour guérir. Parce que nos cœurs sont malades. Isaïe dit, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, nous sommes malades. Mais Jésus-Christ, il est venu pour guérir. Dieu n'a pas de problème avec les gens qui sont malades. Il dit que je suis venu pour les malades. Il est venu pour nous guérir. C'est la bonne nouvelle. C'est ce message que Jésus est venu annoncer aux siens. Et ce message, c'est un message d'espoir pour les siens. J'ai noté ici. C'est un message de restauration pour les siens. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un message de bonne nouvelle pour les siens. Un message de communion avec Dieu. Waouh! Jésus est venu nous annoncer ça. Pas beau ça? Parce que je peux venir et peut-être vous réclamer une dette. Peut venir réclamer, vous savez quoi? Lucien m'envoie, parce que vous avez une dette, on va saisir tous vos biens. Jésus peut venir dire que l'homme est en dette envers Dieu. Jésus pouvait venir avec ça. Voyez la facture de la dette. Non! Il dit, j'ai payé ça. J'ai payé la dette. Je suis venu pour rendre les opprimés libres, parce que j'ai payé la dette sur la croix. C'est ça. Parce qu'il pouvait venir avec un autre message. Mais le message, c'est le message de la bonne nouvelle. Et maintenant, Jésus finit de parler. On continue, on retourne dans Luc 4. Troisième aspect que nous allons voir, donc on voit le message. Donc, dans Luc 4, Jésus ouvre le rouleau, il parle, il lit, il s'arrête. Regardez, il y a quelque chose qui se passe au verset 20. Il est dit, ensuite, Jésus roula le livre... Le remis au serviteur s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça, je l'ai noté ici, l'attente. L'attente des siens envers Jésus-Christ. Jésus finit de lire, Les gens le regardent, il va s'asseoir, tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ils ont une attente envers lui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? L'attente. L'attente envers ce sauveur. Une question, ou bien des questions. Quelles sont mes attentes envers Dieu, envers le sauveur? Vous savez, nous venons ici, ou bien nous devons venir ici avec une attente envers Dieu. Dieu, révèle-toi à moi. Dieu, fais-moi quelque chose. Dans l'intimité de ton cœur, nous prions. Dieu, j'ai une attente. Vous savez, parfois, on vit maintenant, on n'a pas d'attente. On est comme ça. La vie est morose. C'est comme de l'eau plate. Non, il faut avoir des attentes. Quelle attente j'ai envers Dieu? Qu'est-ce que j'attends de Jésus-Christ, de Dieu? Jésus finit, hein? Il finit. Parce que lorsqu'on finit de lire là, il doit parler. Mais il attend, les gens le regardent. Les gens tournent les regards fixés sur lui. Parce qu'il y a deux personnes qu'on voit ici. Il y a le serviteur qui prend le rouleau, il y a Jésus-Christ qui lit. Les gens ne regardent pas le serviteur, ils regardent Jésus-Christ. Ils ont une attente envers lui. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? On peut attendre beaucoup de choses des hommes. Moi, en tant que citoyen français, j'attends des choses de ma nation, de mon pays, de ma patrie. Si je suis pris quelque part, j'attends que l'État fasse tout pour me récupérer. J'attends qu'on paye peut-être quelque chose pour moi, une rançon, je ne sais pas. Les gens attendent. Et voilà, j'attends que si je vais à la mairie, qu'on puisse s'occuper de moi. Parce que je paie mes impôts, je paie ici, je paie les taxes d'habitation. Voilà, j'aime mes devoirs aussi, mes droits aussi. J'attends quelque chose de l'État. Mais moi, qu'est-ce que j'attends de Dieu? On peut me poser la question autrement. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu n'attend rien de nous. Dieu veut seulement qu'on puisse recevoir par la foi. Dieu n'attend rien de nous. Nous, on imagine que Dieu veut quelque chose. Non, Dieu veut que seulement tu acceptes. Il dit, il est venu chez les siens. Dieu veut seulement qu'on accepte. Parce que tout ce que Dieu va attendre de nous, à nous, on ne peut pas tenir ça. Les gens de Dieu, c'est très élevé. On ne peut pas tenir. Ce que Dieu attend de nous, c'est que tu acceptes par la foi. Je dis oui, simplement. C'est ça que Dieu attend de moi. Parce que Dieu m'offre tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme pécheur? David dit dans Psaume 51, je suis né dans le péché, je suis conçu dans l'iniquité. Ça, c'est sa vision. Maintenant, qu'est-ce que moi j'attends de Dieu? J'attends le secours de l'Éternel. On voit ça dans les psaumes. Il dit, j'attends le secours de l'Éternel. Mes yeux sont constamment tournés vers lui. Tout à l'heure, je parlais de David. Imagine que David, il était dans les cavernes. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait la délivrance de Dieu. Parce qu'il savait, si Dieu ne l'a pas délivré là, ça, il pouvait le tuer. Lorsque Nathan est venu le voir, qu'il ne pouvait pas construire le temple, vous savez ce que David a dit? David a donné plusieurs choses, au moins plus de 6-7 choses qu'il dit. Il dit, tu m'as délivré de mes ennemis. Parce que David s'attendait à Dieu. Pas parce qu'il était guerrier, non, il pouvait le tuer. Même les gens qui étaient avec lui, Joab, tous les généraux, ils pouvaient tuer David. Ils vont dire, non, à cause de toi, nous, on coupe partout là. À cause de toi, nous, on va de caverne en caverne, on n'a pas une vie tranquille. Si on te limite là, on va faire la paix avec Saül. Saül va nous donner des pots, c'est bon. Nous savions que c'est toi qui es loin, tu es loin, mais bon, jusqu'à quand tu vas régner? Attends, on voit rien là. Ça pouvait traverser leur esprit, mais avec tout ce qui est dans leur esprit, Dieu a gardé David. Et David s'attendait à l'Éternel. Mes amis, attendons-nous à Dieu, à l'Éternel. C'est lui. Ésaïe 26, verset 8. Quel beau verset. Ésaïe 26, verset 8 dit, oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Fais appel à ton nom et parler de toi. Voilà ce que nous désirons. Waouh. Il dit, oui, nous plaçons notre attente en toi, ô Éternel. Si je la place à un homme, je vais être déçu. Si je la place dans l'église, je vais être déçu. Si je la place dans mon congé, dans ma famille, je vais être déçu. Parce que c'est des pécheurs. Je vais la placer en l'Éternel. Et Dieu va faire ça. Et Dieu va agir. Proverbe 21, verset 1. Il dit, Dieu incline le cœur du roi. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Donc, si je place ma confiance en l'Éternel, Dieu peut incliner le cœur. Il peut incliner tout. Dieu incline le cœur de Cyrus pour qu'il décide que le peuple retourne chez lui. C'est pas possible. C'est pas faisable, ça. Il devait le servir. Mais il décide que le peuple retourne chez lui. C'est Dieu qui a incliné le cœur du roi. Mais c'est quoi? Parce que l'attente du peuple est entre les mains de l'Éternel et Dieu agit. Mais si je fais le contraire, je pose mes attentes sur la terre, sur quelqu'un, mes amis, Dieu ne peut rien faire pour moi. Mais il faut faire le contraire. Je place en haut et Dieu va agir sur la terre. Dieu va agir. Dieu agit. Pensons à Anne, la maman de Samuel. Elle était moquée, elle n'avait pas d'enfant. Sur qui elle pouvait mettre sa confiance? Son mari dit, Elkana dit, je vaux pour toi plus que 10 fils. Waouh! Elle pouvait dire, elle me dit, waouh, tu sais quoi, waouh, mon chéri, tu m'aimes, voilà, tu vaux pour moi 10 fils. Elle pouvait mettre son attente en son mari. Non. Elle est venue au temple, elle pleurait. Elie même n'a pas vu, dit qu'elle a bu. Elle a mis son attente en Dieu. Et Dieu a fait le miracle. Dieu lui a donné Samuel, le grand juge, le grand prophète qu'on n'a jamais eu en Israël. Et lorsque l'enfant a été donné à Anne, ramène cet enfant au temple, il dit, je donne à l'Éternel, ne sachant pas que Dieu va lui donner d'autres enfants. Pourquoi? Toujours sa confiance en l'Éternel. Parce qu'il dit, oui, c'est mon enfant chéri, c'est mon fils unique. Waouh! Il faut que je le protège. Tata Ingrid, il faut qu'on le protège là. Il faut pas le toucher. Non. Il ramène ça à l'Éternel. Au temple, il donne ça à l'Éternel. Vous savez quoi? Et Dieu lui redonne deux enfants. Pourquoi? On voit qu'Anne a accompli ce mécanisme. Je mets mon attente. Éternel, je pose sur lui. Et Dieu agit. Là où il ne peut pas avoir d'enfant, Dieu agit. Là où on voit un mort qui est en train de passer, Jésus le rencontre, il ressuscite ce mort. On voit Lazare. C'est ce, non pas leur attendre sur Jésus qui dit, si tu étais là, c'est le passé. Si tu étais là, notre frère allait ressusciter. Donc il voit Jésus qui dit, non, attends, il est mort là, c'est bon, il n'y a rien à faire là. Il dit, il est mort, il n'y a rien à faire. Si tu étais là, si tu eût été là, notre frère ne serait pas. Il va ressusciter. Au dernier jour. Il va ressusciter. J'ai dit, non, c'est maintenant. Je vais le ramener à la vie. J'ai dit, Dieu, vous n'avez pas mis votre confiance là. Vous l'avez mis dans le passé. Je suis le Dieu vivant. Je suis aujourd'hui, hier, le même. Je peux agir. Ce qu'on lit dans la Bible pour Noé, là, pour là, c'est le même Dieu. Il agit dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu musée où on va voir les choses là, c'est le musée. Non, vous savez, moi je ne veux pas de tout. Moi je ne veux pas vivre ça, je ne vis pas ça. L'amour que je vous dis, le pardon là, moi je veux vivre ça. Sinon, Dieu devient Dieu de musée. On voit, c'est joli. Hein. Waouh, on a vu les trucs là. Waouh, c'est le temps de Napoléon. Waouh, Bonaparte, il était bien. Oh, les gars sont. Non, c'est pas comme ça. C'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Et je mets mon attente en lui. Hein, et Dieu déclenche quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas. Parce que j'ai mis ma confiance en lui. Il dit, oui, nous plaçons notre attente en toi, ô Éternel. Sur le sentier de tes jugements. Parce que moi, je peux juger. Je peux me venger. Il dit, non. Le croyant s'attend toujours à Dieu. Dans les petites et dans les grandes choses. Souvent, nous, on s'attend à Dieu dans les grandes choses. Ah, j'ai si. Mais dans les petites choses, on n'arrive pas à s'attendre à Dieu. Et c'est bizarre. La vie devient bizarre. On dit, non, même dans les petites choses, je peux m'attendre à Dieu. Je prends mon bus, j'ai un rendez-vous, j'ai telle chose. C'est ça l'exercice de la foi. Même dans les petites choses, je peux m'attendre à Dieu. Je lui confie ça. Dieu, je ne maîtrise pas le bus. Le bus va être en retard. Mais j'ai un rendez-vous important. Je te remets ça. Dieu, apaise-moi. Dieu va t'apaiser. Peut-être que tu vas aller là-bas. Hein, le rendez-vous va se passer. Pas comme toi, tu l'as prévu. Non, pense pas à ça. Si on cherche un avion, nous, on veut un avion. On prie là. On a la foi qu'on va avoir un avion. Ça, nous, on a la foi pour ça, les grandes choses. Mais les petites choses, comprends pas. Seigneur, j'ai besoin de 5 euros. Donne-moi 5 euros. Fais quelque chose pour moi. Peut-être un frère va te donner 5 euros. Ou bien Dieu vous met à cœur de donner 5 euros à quelqu'un. Tu dis, ah tiens, on est en France et on ne donne pas l'argent. Hein. 5 euros, attends, comment je vais faire à la fin de mon mois? Non, Dieu va peut-être te mettre quelqu'un, un frère quelque part. 5 euros. Ou bien 4 navires, je ne sais pas, ou bien va le voir. Pourquoi? Parce que lui, il a mis son attente en l'éternel et Dieu agit sur la terre. Dieu dit dans Exode que j'ai entendu le cri de mon peuple. Le peuple a mis son attente vers le Dieu et il a suscité un libérateur, Moïse. Le peuple avait confiance à l'éternel et Dieu a suscité un libérateur, Moïse. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque je mets mon attente à Dieu, c'est pas au ciel que ça se passe. Dieu déclenche les choses au ciel et je vois, je le vis sur la terre. Je le vis. Lorsque le Sauveur est venu, parce que les gens priaient, ils attendaient au Sauveur. Lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ, ils disent, voici, mes yeux ont vu le Sauveur du monde. Wow. J'ai d'autres versets ici. Je vais donner un verset dans cette rubrique-là. L'attente, troisième point, c'est l'attente. Philippiens 1, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens 1, 20. C'est Paul qui parle, je dis, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma mort, soit par la vie, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le but de notre attente? C'est que Christ soit glorifié, Dieu soit glorifié. Paul dit que je vis ou que je meurs, moi mon désir c'est que Dieu soit glorifié. C'est ça. Mon attente est en Dieu. Mais moi je ne vais pas décider comment Dieu va agir. Donnez un exemple. Les amis de Daniel. On dit on va les mettre dans le feu. Il dit non, nous on ne va pas adorer ton Dieu. Il dit ah bon, vous n'êtes pas adoré, on va vous mettre dans le feu, dans la fournaise. Vous reniez. Il dit non. Il dit quand nous on soit dedans, bien dehors, nous on ne va pas adorer. C'est que ils étaient dans le feu était venu avant qu'ils voyaient le quatrième homme. C'est pas dehors. Nous, si on voit le quatrième personne dehors, on dit oui, ça va. Moi je peux croire, mais là, on est que toi. Shadrach, toi, tu as vu quelqu'un. Tu as vu quelqu'un. Non, j'ai vu personne. Ah bon, comment on fait alors? Qu'est-ce qu'ils sont ici? On dit, on renie ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Ils n'ont pas dit ça. J'imagine qu'ils vont avoir de la trouille. Mais ils étaient dans la fournaise. C'est dans la fournaise que le roi dit qu'on voit un quatrième homme. Il y a l'apparence du Fils de Dieu. L'apparence de Dieu, c'est Jésus-Christ qui était avec eux. Pourquoi? Parce qu'au milieu même de la fournaise, là, ils ont mis leur confiance en l'éternel. Et Paul le dit, que je meurs ou bien que je vive, mon attente est en Dieu. Que Christ va être glorifié, c'est ça. Parce que si on n'a pas ça, mes amis, lorsque on met notre attente en Dieu, les choses ne se passent pas comme on est chamboulé, on est déboussolé, on n'est pas en paix. Non, tant que je pose ma confiance en Dieu, c'est Dieu qui fait le reste. Vous savez, il y a ma part et la part de Dieu. N'essayons pas de faire la part de Dieu. Nous, on veut faire la part de Dieu. Ah, non, je fais ma part. Ma part, c'est de croire en Dieu, de lui faire confiance, de marcher par la foi, d'aller. Et la part de Dieu, c'est d'agir. C'est de déclencher à quel moment, avec qui, c'est Dieu qui déclenche ça. Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le mot accompagner, ça veut dire être en mouvement. Lorsque vous voyez dans le compte, le mot accompagner, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le mot accompagner, c'est être en mouvement. Lorsque je suis en mouvement, Dieu m'accompagne par des choses. Mais là, je suis statique, je ne vois rien. Le mouvement, c'est le mouvement de la foi. Le mouvement de la confiance en Dieu. Et vous voyez, Dieu m'accompagne. C'est Dieu qui détermine les choses. Non, moi, je vois rien. Imagine les toits là. Est-ce qu'on bouge ou pas? Est-ce qu'on renie le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait là? Ils vont nous mettre dans le feu là. Le feu est proche là. Toi, tu ne sens pas l'odeur? Je dis oui, je sens, mais bon. Mais vous savez, ils ont continué. Je rigole parce que, pour vous dire qu'on peut vivre ça. Pour vivre ça. Même si je sens, j'imagine qu'au bord du feu, ils ne vont pas être joyeux, ils ne vont pas crier de joie. Ils vont avoir la toux, ils vont avoir peur. Vous savez, même malgré ça, ils continuent par faire confiance à l'éternel, c'est ça. Et du coup, les choses changent. C'est comme on parle des émotions négatives là. Les émotions vont changer après. Parce que je mets ma confiance en Dieu. Et Dieu va déclencher autre chose. La paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, va apaiser mon cœur. La joie ineffable va venir inonder mon cœur. Mais si je ne fais pas ça, je suis dans le calcul. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Vous savez, c'est ça la magie. C'est tous les jours ça. C'est quotidien, jour après jour. J'ai peur, mais la peur, je remets ça à Dieu. Jésus même, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Jésus lui-même, il avait peur. Il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et s'il pouvait fuir, il allait fuir. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce que la boire était due pour Jésus-Christ. Imagine Jésus-Christ et nous. Donc nous, on a ce sentiment où on est de couleur, nous, on ne se culpabilise pas. Le secret, c'est de venir vers Dieu. Dieu dit, ce n'est pas ma volonté, mais je veux ta volonté. Aide-moi. Sinon, le diable va nous culpabiliser tout le temps. J'ai un sentiment négatif, j'ai peur. C'est pas... Non, viens à Dieu. Le Fils de Dieu lui-même, il a eu les mêmes sentiments. S'il ne pouvait pas dire ça, il a eu peur, Jésus-Christ. Étant humain, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a accepté. Lorsqu'ils sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémani, il s'est laissé. Il est allé volontairement. Parce qu'il a dit que c'est le chemin de la souffrance qui va mener à la vie. C'est ce chemin qui va mener à la gloire. Je vais laisser les autres versets. Je vais terminer avec le quatrième point. Le quatrième point, nous le voyons au verset 21 et 22 de Luc 4. Premier point, Jésus est chez les siens. Deuxième point, c'est chez les siens, Jésus a un message qu'il donne. Troisième point, il y a une attente. Et quatrième point, qu'est-ce qu'on va avoir l'accomplissement, cette attente-là. Regardez au verset 21-22. Donc les gens s'attendent à quelque chose de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il leur dit. Verset 21 et 22. Les gens le regardent. Et Jésus se lève. Alors, Jésus commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Il n'a pas dit, ce que vous avez entendu, ça va s'accomplir demain. Il dit, c'est aujourd'hui. Pourquoi il dit ça? Parce que le passage parle du Messie, du Sauveur. Il dit, c'est moi l'accomplissement. Je suis en train d'accomplir cette parole qui a été prédit des années, où Isaïe a prêché, Isaïe a dit, où des générations attendaient le Sauveur. Aujourd'hui, vous avez le Sauveur devant lui, devant vous, c'est Jésus-Christ qui parlait. Il dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue s'accomplit. Est accomplie. C'est le présent parfait. Il dit, est accompli. Il n'a pas dit, sera accompli, hein, sera accompli. Ah, on est encore dans le futur. Ou bien, a été accompli. On dit, ça a été accompli, nous on ne l'a pas vu. C'était dans le passé ça. Il peut dire, a été accompli, mais nous on ne l'a pas vu. Non, il a dit, est accompli. C'est le présent parfait. Il n'y a rien à ajouter. Il dit, ce que vous avez entendu là, je suis là devant vous là. C'était accompli. Je le suis. Je suis le Messie. Waouh. Et vous savez, qu'est-ce que les gens disent? Les gens glorifiaient Dieu. Glorifiaient Dieu. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Waouh. Jésus dit, l'accomplissement. Mes amis, Dieu accomplit ses promesses dans nos vies. C'est pas dans le futur. Il y a des choses que nous allons vivre dans le futur. Où nous aurons un corps glorifié, où nous serons élevés, où nous aurons avoir des couronnes. Paul le dit dans Corinthiens, où Dieu va nous donner des couronnes. Mais aujourd'hui, sur terre-là, il y a des choses que Dieu veut nous donner. Dieu veut accomplir des choses. La joie ineffable, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. La paix qu'il nous donne, Dieu veut qu'on puisse avoir la paix. Dieu, il va prendre soin de nous. Et au ciel, il n'y a pas à prendre soin de nous, on a tout. Et ça, au ciel, il n'y a pas à prendre soin de nous. Ou bien je mens. Au ciel, il n'y a rien. Nous, on aura tout. Il va prendre soin de nous. Si Jésus dit qu'il va prendre soin de nous, c'est ici, c'est sur la terre. Il va prendre soin de nous. Il va pouvoir nos besoins. Il dit, de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je prendrai soin de vous. C'est pas au ciel, ça. Parce qu'on est sur la terre, on va naître, on va grandir, on va vieillir, on va mourir. Mais durant cette saison, cette séquence que Dieu nous accorde sur la terre, Dieu nous promet, prends soin de nous. Amen. Le psaume dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, c'est David qui parle. Il dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Waouh, alléluia. Dieu accomplit ça. Et je peux vivre ça. Donc Jésus, si les siens vont vivre l'accomplissement de ça. Mes amis, Dieu veut accomplir des choses dans nos vies. Et vous le vivez déjà. Je le crois, vous le vivez. Dieu veut accomplir les ajustements de nos prières. Jean, Matthieu 7, verset 7. Dieu dit, demandez, on vous donnera. C'est pas au ciel, ça. Vous lisez le passage, il dit, demandez, on vous donnera. Il n'a pas dit, demandez, je vous donnerai au ciel. Il dit, cherchez, vous trouverez. Il n'a pas dit, cherchez, vous trouverez au ciel. Cherchez, vous trouverez. Il dit, frappez, on vous ouvrira. C'est où? Non, c'est pas au ciel, on va vous ouvrir. On est déjà au ciel. On est dans sa présence. On est merveilleux. On est dans la gloire. On n'a pas cherché ni à... Non, on est dans sa présence. Tel qu'il est, tel nous serons au ciel. Mais c'est sur la terre, ça. Il dit, cherchez. Est-ce que je le cherche? Il dit, quel est mon besoin? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais cherchez, vous allez le trouver. Frappez, il va ouvrir pour vous. Lui, il va ouvrir. Sincèrement, dans votre cœur, il va vous ouvrir.